Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Moulima.
Opération conjointe RDC-Ouganda, l'armée ougandaise a poursuivi hier mercredi son déploiement sur le sol congolais à partir de Nobili, village frontalier avec l'Ouganda. Après les frappes aériennes, les opérations devraient se poursuivre sur le sol, a fait savoir le porte-parole des FARDC. Plus de 1050 personnes sont mortes du sida dans la province de l'Ituri, annonce faite par le responsable du programme national de lutte contre le VIH-Sida, PNLS. Avec un taux de prévalence de VIH estimé à 5%, la province de l'Ituri occupe la première place en matière d'infection en RDC. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, ce maître Rifin Louko. Il vient de décrocher son doctorat qui a porté sur les violences sexuelles. Il nous fera le point de la lutte contre les violences sexuelles en RDC dans le cadre des 16 jours d'activisme. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. L'armée ougandaise a poursuivi hier mercredi le déploiement de ses troupes sur le sol congolais à partir de Nobili, village du territoire de Beni, frontalier avec l'Ouganda. C'est au lendemain du début des opérations conjointes avec l'armée congolaise contre les ADF dans la région. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Ce mercredi, de nouvelles troupes de l'armée ougandaise ont traversé la frontière congolaise à Nobili à bord des convois de plusieurs véhicules. Selon des témoins, ces militaires ougandais ont traversé la cité de Nobili et la localité de Kamango, soit environ 10 km de route depuis la frontière, avant de s'installer dans les villages de Mukakati. La société civile de la chefferie de Watalinga dit soutenir l'entrée de l'armée ougandaise sur les territoires congolais pour combattre les ADF. Son vice-président Mabele Moussaïdi exprime toutefois quelques inquiétudes.
Nous sommes pour cette entrée parce que nous avons besoin de la paix, mais nous déplorons ce que ces gens sont entrés en désordre. Il y a ceux qui sont passés par Baoumou, d'autres qui sont passés officiellement par les routes de Nobili à la frontière frontalière de la Mia. Mais aussi on ne sait pas si quelle a été la collaboration entre nos forces armées de la République, basées à Kamango, à ceux-là qui sont à Busega.
Dans un communiqué publié mardi, l'armée congolaise a annoncé que des forces spéciales congolaises appuyées par les unités spéciales ougandaises vont mener des opérations de fouilles et de contrôle des zones pour nettoyer et sécuriser les positions des ADF touchées par les frappes. Les mêmes jours, les armées congolaises et ougandaises avaient pilonné tôt dans la matinée des positions des rebelles ADF dans les territoires de Beni. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Effectivement, après les frappes aériennes, l'heure est à l'offensive terrestre avec l'entrée en danse des troupes au sol. Puis viendra le temps de poursuivre tous les ennemis qui ont pu s'échapper en vue de les neutraliser définitivement. Cette explication est du porte-parole des FARDC. Le général Léon-Richard Kasonga s'exprimait ainsi hier mercredi dans la soirée au cours de la conférence de presse qu'il a animée conjointement avec le porte-parole du gouvernement et celui de la police nationale congolaise. On l'écoute dans cet extrait choisi par Pélé Kipelamondo.
Au regard des renseignements recueillis, nous avons commencé à attaquer des objectifs militaires bien précis. Et à ce niveau-là, nous avons bénéficié tard de l'appui en artillerie de l'armée ougandaise. Et ces troupes ougandaises ont rejoint les unités spéciales congolaises à la frontière depuis la matinée. En ce moment précis, après qu'il y ait eu ce pilonnage systématique des deux forces armées, nous avons localisé avec nos moyens technologiques, y compris l'appui des partenaires, et c'est ainsi que nous avons commencé à frapper ces endroits-là. Et après ces frappes, les troupes d'infanterie au sol sont entrées. La tradition militaire veut que, après qu'on ait frappé une cible, après qu'on ait bombardé un endroit précis, qu'on aille voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'ils ont été neutralisés ou détruits complètement? Et la prochaine étape, ce serait quoi? D'aller au-delà, poursuivre l'effort de manière à aller dans les différentes directions ou dans le sens où il y aurait des gens qui auraient échappé aux frappes et qu'on le poursuive, qu'on le neutralise, parce que c'est l'objectif à tout prix.
Répondant alors aux inquiétudes de ceux des Congolais qui dénoncent le recours à l'armée ougandaise pour mener des opérations sur le sol congolais en se référant aux atrocités commises par ces forces sur les populations congolaises dans les passés, le ministre de la Communication et Médias affirme que le gouvernement congolais a plutôt choisi d'aller de l'avant tout en n'oubliant pas le passé. Patrick Muyaya, qui s'exprimait à la même conférence de presse, sollicite le soutien de tous pour amener définitivement la paix dans cette partie du pays écumée par les ADF et autres forces négative. Écoutez le porte-parole du gouvernement dans cet extrait sélectionné, toujours par Pelé Kipelamundo.
Nous savons tous que nous avons un passé difficile avec nos pays voisins, parce que les mécanismes que nous avons mis en place avec l'Ouganda, nous l'avons mis en place aussi avec le Rwanda. Parce que notre sécurité, à eux comme nous aujourd'hui, dépend de la nature de notre collaboration. Nous n'oublions rien de notre passé. Il y a des mécanismes qui ont été engagés. Mais parce qu'aujourd'hui, et eux et nous, nous faisons face à un ennemi commun, qui est terroriste, qui n'a pas de frontières, qui décime, à la fois en Ouganda et chez nous. Nous avons l'obligation d'agir ensemble, comme dans toutes les zones du monde où il y a les terroristes. Les inquiétudes de nos compatriotes, nous les prenons en charge. Nous savons que c'est une opération que certains des compatriotes, pour des bonnes raisons, ont des doutes. Mais nous, le gouvernement, faites-nous conscience. Nous avons fait le choix du développement économique de la région. Vous avez vu qu'avec l'Ouganda, nous avons amorcé des travaux de construction de 237 km de route qui permettra l'évacuation de nos produits, qui permettra à nos populations de cette partie du territoire de s'éclore économiquement. Il y a des choix à faire. Nous avons fait le choix d'avancer. Et ce choix, justement, de faire ces opérations, c'est pour amener la sécurité dans une partie qui en a trop besoin.
Ces opérations militaires conjointes lancées par les forces congolaises et ougandaises relèvent d'une décision bilatérale entre la RDC et l'Ouganda que la MONUSCO respecte, mais nécessite une coordination très étroite entre les acteurs pour plus d'efficacité et pour la sécurité de toutes les parties. La déclaration est du porte-parole de la mission onusienne Mathias Gilman. C'était hier mercredi au cours de la conférence de presse des Nations Unies ici à Kinshasa. Pour Mathias Gilman, la coordination de ces opérations permettrait notamment de voir comment la force de la MONUSCO peut compléter les efforts faits et être utile à la lutte contre les ADF dans cette nouvelle approche. Les propos du porte-parole de la mission recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Il y a évidemment un travail de coordination à faire. Le commandant de la force était avec, donc aujourd'hui avec le gouverneur du Nord Kivu. Demain ou très prochainement, il se rendra en Ouganda. Donc c'est vrai qu'il va y avoir évidemment des conséquences opérationnelles que nous, il faut qu'on prenne en compte dans ce qu'on peut faire. Notre mandat nous autorise à soutenir l'armée congolaise dans ces opérations. Notre mandat ne nous permet pas de soutenir une coalition régionale. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, ça veut dire simplement que nos efforts doivent être coordonnés. Il y a évidemment des discussions intenses qui se passent depuis hier et même depuis le week-end dernier pour avoir justement des mécanismes de coordination qui nous permettent chacun dans ce qu'on souhaite faire et dans la limite des mandats que nous avons, essayer d'être le plus efficace possible dans notre approche en garantissant au maximum la protection des civils, l'accès humanitaire et le respect du droit humanitaire international.
Par ailleurs, Mathias Gilman a indiqué que la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, est en visite au siège des Nations Unies à New York en prévision de son passage devant le Conseil de sécurité le 6 décembre prochain. La province de l'Ituri a enregistré 1014 personnes mortes du sida au cours de l'année en cours. Ces chiffres sont révélés par le responsable du programme national de lutte contre le VIH-Sida, PNLS. C'est à l'occasion de la célébration hier mercredi 1er décembre de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Il s'agit des malades sous traitement mais dont on avait perdu les traces à cause de l'activisme des groupes armés qui a entraîné des déplacements de la population, principalement dans les territoires de Djougou et Irumu. D'autres, estimés à plus d'un millier, ont arrêté les traitements. Avec un taux de prévalence de VIH estimé à 5%, la province de l'Ituri occupe la première place en matière d'infection. Reportage Jean-Claude Lokidile.
En 2020, l'Ituri comptait 20 933 personnes vivant avec le VIH-Sida. Tous étaient sous traitement, affirme le médecin responsable du programme national de lutte contre le VIH-Sida en Ituri. Mais depuis le début de cette année, 2815 malades ne sont plus visibles. Il s'agit des patients qui ont fui pendant les mouvements des populations observées dans les territoires de Djougou et Irumu à cause des violences perpétrées par des miliciens des groupes armés, ce qui constitue un danger pour la population, comme l'explique le docteur Roger Boujou.
Quand on a des PV perdus des vies comme ça, ils arrêtent les traitements, ils arrêtent également l'accompagnement que les prestataires font pour améliorer leur état de santé. Et ce qui est encore plus grave, ils peuvent propager maintenant des souches résistantes dans la communauté. Et là, ça devient un danger pour la communauté itourienne, d'une manière particulière, mais en général également pour le pays.
Cette autorité sanitaire redoute l'augmentation des cas de décès liés au VIH-Sida et de nombre de personnes contaminées si rien n'est fait pour mettre fin aux conflits armés dans l'Ituri. Le docteur Roger Boujou fustige aussi l'attitude de certains responsables des églises qui découragent la population à recourir aux préservatifs pour se protéger. La vulnérabilité des malades, l'inaccessibilité aux soins de santé et la destruction du plusieurs infrastructures de santé constituent d'autres facteurs qui facilitent la propagation de cette maladie dans la province de l'Ituri. Bounia, Jean-Claude Loki, Dilé, Radio Capi.
Autre nouvelle, la flambée des prix des fret perturbe les économies africaines. Déclaration de l'Union des conseils des chargeurs africains ICCA. Olivier Manzila, directeur général ad intérim de l'OGEFREM et président du comité directeur de l'UCCA, l'a dit en marge de l'ouverture hier mercredi ici à Kinshasa, des assises de 3 jours qui réunissent les chargeurs africains. Ces derniers plaident pour que leurs gouvernements respectifs interviennent pour stabiliser les taux des fret. Olivier Manzila est au micro de Paul Matendo.
Comme vous savez, la flambée des taux de fret actuellement, les prix qui ont augmenté pour être à un niveau que tout le monde peut comprendre, les prix du conteneur qui devait venir par exemple de l'extérieur qui coûtait hier 1 500 $, aujourd'hui atteint même le seuil de 6 000 $. Et comme vous pouvez imaginer, cette réalité est en train de perturber non seulement les opérateurs économiques, mais ça affecte les prix. Et quand les prix sont affectés sur le marché, en fin de compte, c'est les consommateurs finaux qui sont affectés. C'est la raison pour laquelle, de ces assises, les conseils des chargeurs sont censés réfléchir, mener une réflexion dans le sens de voir comment on peut faire entendre notre voix pour que, dans un premier temps, que ce taux de fret soit ne serait-ce que stabilisé et, dans un bref délai, je voudrais dire en moyen terme, se battre pour que nous puissions faire un recul par rapport à ces taux de fret pour permettre à nos populations de vivre normalement et surtout de rendre nos économies plus compétitives.
Et puis en plus bref, le salon Expo Béton a ouvert hier mercredi 1er décembre sa 5e édition 2021. Cette édition est placée sous le thème Kinshasa Horizon 2050, 3 pôles, 4 villes. Plusieurs acteurs du secteur de la construction, du bâtiment, les scientifiques, politiques et partenaires privés vont réfléchir pendant 4 jours sur les grandes lignes du développement de Kinshasa telles que définies depuis 2014 par le schéma stratégique d'orientation de l'agglomération de Kinshasa sous SAC en sigle. Alors, après plusieurs provinces, le ministre d'État Guy Luando Mboyo était hier dans le Lualaba pour procéder au lancement de la campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire. À Kolwezi, il a invité les miniers, fonciers et autres forestiers de cette province à s'approprier cet outil de travail en vue de limiter les conflits de terres qui les opposent. On écoute un extrait de l'adresse de Guy Luando Mboyo.
Je saisis cette précieuse occasion pour rendre un hommage mérité à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision qui met au centre de la gouvernance le bien-être de la population, notamment par l'aménagement du territoire de la République démocratique du Congo, pour son développement durable, harmonieux et anthrocentré. Étant donné que la province du Lualaba est l'une des provinces minières du pays et son chef-lieu Kolwezi une grande et historique ville du pays, une forte vulgarisation s'avère nécessaire afin d'éviter la superposition des titres sources de conflits, d'améliorer les affectations et les usages des terres, d'assurer la protection des communautés locales ainsi que la modernisation ou la rénovation des villes dans le respect des normes et standards modernes d'aménagement et développement des villes durables et résilientes.
On reste dans la région. Inauguration hier mercredi à Lubumbashi des bureaux du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, par le gouverneur de la province. Ce dernier a aussi remis les clés du bâtiment réhabilité aux représentants résidents de l'UNICEF en RDC. À cette occasion, Edouard Begbeder a parlé du lancement prochain de la nouvelle radio Bana Okapi, qui est une radio spécialement conçue pour les enfants. On écoute Edouard Begbeder, représentant de l'UNICEF en RDC, au micro de Jean Gandou.
On a déjà, depuis le 20 novembre, eu une nouvelle grille de Bana Okapi. On peut écouter Bana Okapi aujourd'hui à Kinshasa, à Kananga, à Goma, à Bukavu, à Kalimi, à Bunia. Cette semaine, on va pouvoir aussi l'écouter à Lubumbashi. C'est une radio pour les enfants, avec les enfants, où on a beaucoup d'émissions éducatives, où il y a de la participation des enfants sur ce qu'ils souhaitent faire. On parle de la paix, on parle de la santé, on parle de la nutrition, on parle de la protection. l'information et aussi de la musique. Et bientôt, on aura 42 émetteurs, en gros les émetteurs de Radio Okapi, qui auront aussi Bana Okapi sur leur station. Bah, les enfants représentent 54% de la population. Donc il est normal qu'on ait aussi des services pour les enfants. Les enfants ils ont des besoins différents suivant leurs âges. Ils aiment écouter aussi différentes sources d'informations. Aujourd'hui, ils ont plein de radios, mais où il y a beaucoup de débats, où c'est plus fait pour les adultes. Alors que là, les programmes sont faits par les enfants pour les enfants. Et ça fait partie de la Convention des droits de l'enfant, où il faut faire participer les enfants.
Actualité internationale.
Est-on en train d'assister à un nouveau renversement des situations en Éthiopie? Les rebelles tigrés et leur coalition s'étaient récemment approchés à moins de 200 km d'Addis Abeba, faisant planer une menace sur la capitale. Mais depuis plusieurs jours, le gouvernement s'est engagé dans une large contre-offensive qui semble pousser les forces tigréennes à se replier. Une dizaine de villes auraient été reprises aux rebelles tigréens, a assuré ce mercredi un porte-parole gouvernemental. Parmi elles, certaines sont stratégiques, comme Chifra sur le front Est, Shewa Robit sur le front sud et Gachena sur le front ouest.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est Maître Rifin Loukour, avocat. Il vient de décrocher son doctorat qui a porté sur les violences sexuelles. Il a aussi publié plusieurs ouvrages dans ces domaines. Il fait le point de la lutte contre les violences sexuelles en RDC dans le cadre des 16 jours d'activisme. Maître Rifin Loukour est interrogé par Alain Hirong. Suivez.
Maître Rifin Loukour, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Nous célébrons depuis la semaine dernière les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre dont sont victimes les femmes et les jeunes filles. À ce jour, maître, quel est le bilan que vous pouvez dresser en cette matière-là?
Le bilan est lamentable. Selon un, que les violences sexuelles se poursuivent en RDC, en particulier à l'est du pays. Et après l'est du pays, là où les violences sexuelles se sont poursuivies continuellement, c'est au Kasaï, le grand Kasaï, n'est-ce pas, notamment avec les violences Karamouina-Sampou, le phénomène. Ensuite, au Congo central, dans les territoires, n'est-ce pas, frontaliers avec l'Angola, les violences sexuelles se sont poursuivies continuellement. Jusqu'aujourd'hui, donc, en ce qui concerne ces violences, donc les faits, ça se poursuit. Mais en ce qui concerne notre justice militaire, coup de chapeau, parce que la justice militaire a été l'instrument du gouvernement congolais, du peuple congolais, pour faire reculer les phénomènes. La justice militaire a fait la différence.
Alors, on va y revenir en ce qui concerne la justice militaire. Maître, qui sont les auteurs de ces violences sexuelles?
Alors, selon qu'on est dans telle ou telle autre région, en l'est du pays, principalement, les violences sexuelles ont été commises massivement par les groupes armés. Ensuite, les hommes en uniforme de l'armée régulière et de la police du pays, c'est un brebis galaise dans beaucoup de garnisons. Et ensuite, et en particulier, dans les grandes villes, par des populations, parce que ces violences sexuelles qui ont été au départ, des violences sexuelles de guerre, ça veut dire dans les champs de guerre, dans l'arrière-pays, se sont retrouvées urbanisées, ça veut dire, se sont déplacées de la jungle, de la forêt, aux centres urbains. Et dans ces centres urbains, c'est messieurs tout le monde. Ce sont les officiels, ce sont les stars, ce sont les enseignants, ce sont toutes sortes de personnes qui sont revêties d'une autorité officielle.
Il y a une tendance actuellement à travers le monde, c'est celle de mettre en exergue une autre forme de violence sexuelle, l'inceste. Ouais. On le suit particulièrement en Europe. Quelle est la situation ici en Afrique? On sait que c'est parmi les sujets tabous.
Oui, évidemment, c'est parmi les sujets tabous et l'inceste a bâti le record. Je peux citer principalement les provinces qui ont été les plus infestées par l'inceste, c'est le Grand Kasaï, le Maniema, la province du Katanga, l'Équateur également. Ajoutons à cela, dans les cas militaires, ça veut dire nos garnisons, n'est-ce pas, d'hébergement de nos soldats et nos policiers. L'inceste est à plus forte dose dans les camps militaires.
À cause notamment d'une certaine promiscuité.
Oui. Voilà, évidemment. L'inceste, dans notre pays, est rangé uniquement comme violence sexuelle, comme toutes les autres. Évidemment, déjà, les violences sexuelles dans notre pays sont sévèrement punies par la loi de 2006 portant répression des violences sexuelles et la loi de 2009 portant protection de l'enfant. Mais, ça serait comme dans d'autres pays utile que le puisse être érigé en infraction à part entière qui constitue, n'est-ce pas, l'inceste. L'inceste est une infraction dans d'autres pays comme à Brazzaville qui ont érigé l'inceste comme une forme différente des violences sexuelles parce que celle-ci se passe dans les familles et qui doivent être réprimées différemment parce que les modes de dénonciation sont toujours difficiles parce que ça concerne le papa, l'oncle et consort.
Pensez-vous que la RDC, du point de vue de sa législation, sévit valablement contre les violences sexuelles?
Nous sommes le premier pays d'Afrique, et voire même du monde, qui a le diapason de loi sur les matières de violences sexuelles au même titre que la CPI. donc et la communauté internationale. Nos lois sont presque les copier-coller. Donc nous sommes au standard international en ce qui concerne la législation.
Dans la pratique.
Le problème, hélas, c'est dans la pratique. Dans la pratique, on en trouve la corruption, on en trouve les règlements amiables, alors que ces arts d'infraction, le règlement amiable, les vaches, chèvres et consorts ne doivent pas être admises dans ces genres de choses. Les transactions ne doivent pas être admises, les personnes doivent être réprimées. C'est ce que la justice militaire a fait, de ne pas accepter les transactions.
Voilà, revenons à cette justice militaire. Quelle est la différence que vous faites dans l'application entre les juridictions militaires et civiles?
Nous avons fait le monitoring du déploiement de la justice militaire congolaise sur l'étendue du territoire national, en particulier dans les endroits où il y avait les taux les plus élevés de violences sexuelles. La justice civile est bonne, rongée par la corruption et une certaine complaisance. C'est dommage, nous le disons chaque fois, la justice civile, qu'on appelle la justice du droit commun, aurait dû être le bouclier sur lequel s'appuie la nation. Mais là, c'est lorsqu'on voit la différence, on a vu que la justice militaire se déployait, donc le gouvernement a déployé la justice militaire autant qu'elle avait déployé la justice civile. La justice militaire a fait de loin plus de 60%. La justice civile était à moins de 30%. Hélas, la justice militaire est confrontée au fait qu'ils sont moins nombreux. Les territoires sont énormes, ils sont moins nombreux, les magistrats militaires. Mais, et depuis longtemps, ils prononcent leurs décisions dans les délais, ils motivent leurs jugements, c'est-à-dire les jugements sont écrits, motivés, et ensuite, la plupart de leurs justiciables fuient rarement les justices, on les rattrape toujours.
Maître Ruffin Louko, merci.
C'est la fin de cette édition mise en onde par Mimi Kindou, coordonnée, supervisée par Pele Kipelamondo. Merci de nous avoir suivis.